Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Depuis jeudi dernier, la mi-carême est passée, déjà la moitié du désert traversé. Nombreux sommes-nous probablement à avoir le sentiment d'être débordés par cette période liturgique. Pas assez de temps pour se poser, pour lire un bon livre de spiritualité ou parcourir à nouveau quelques passages des évangiles. Mais si le temps de notre vie spirituelle nous file souvent entre les doigts, n'est-ce pas plutôt que nous ne sommes pas tout à fait persuadés que Dieu peut agir, réellement agir? C'est en tout cas la conviction profonde de mon invité de ce matin, et pour cause, notre homme a presque vu des morts ressuscités. Ah, ça vous fait rire, Daniel Desbois.
Hein. Bonjour.
Daniel Desbois, donc on vous retrouve pour cette série de carême, troisième émission de notre série de carême sur le thème « Dieu peut-il guérir ?». Vous êtes psychologue, cofondateur des Agapés, retraite de guérison intérieure du Puy-en-Velay. Alors ça vous fait sourire, mais ai-je vu juste? Est-ce que vous avez vu presque des morts ressuscités, Daniel Desbois, au long de ces années de ces retraites de guérison?
J'ai vu beaucoup de personnes sortir de l'obscurité pour aller vers la lumière, ça c'est sûr. Alors maintenant, il y a la guérison physique, il y a la guérison aussi de l'âme. Le Seigneur, lui, il veut qu'on soit guéri et surtout sauvé. Donc qu'il y ait des guérisons physiques, j'en ai vu des tonnes. Mais j'ai vu surtout de belles âmes qui ont été sorties du tombeau, et ça c'est vraiment la récompense, ça c'est absolument merveilleux. Ça.
Est-ce qu'il vous reste en mémoire quelques exemples comme ça? J'imagine que ça doit vous aider aussi à persévérer dans ce ministère.
Oui. Ben, l'exemple le plus fort que j'ai eu, c'était un homme, on m'avait prévenu, j'étais responsable de la session, hein, et juste une demi-heure avant, on me prévient, il va y avoir cette personne-là, c'est un transsexuel, il va venir habillé en femme, donc vous inquiétez pas, au niveau de... Il me dit de prévenir les gens, quoi, qui est OK. Et j'étais absolument fasciné par la pédagogie de Dieu, parce que dès le lendemain, avec une collègue qui était là, hein, on décide de faire une prière de délivrance avec son accord. Parce qu'il était venu faire cette session agapée. Il était venu juste pour avoir la confirmation qu'il pouvait demander l'opération, la totale. Ok, bon, il vient juste pour cette confirmation, mais nous on dit, on va lui demander quand même au Seigneur s'il est d'accord pour que cette opération se fasse. Est-ce que vous voulez bien qu'on fasse une prière de délivrance?
Alors pourquoi juste une prière de délivrance? Que là, on peut ne pas vous suivre.
Ah oui, d'accord.
Vous travaillez pas forcément à le délivrer de son orientation sexuelle, on imagine.
Non, pas du tout. Savoir que la prière de délivrance, c'est uniquement la personne, savoir si elle est esclave d'un esprit quelconque. Qu'il soit impureté ou haine ou autre chose. Donc on explique, est-ce que, si c'est de Dieu, vous aurez de toute façon accès à l'opération totale. Mais si c'est pas de Dieu, dites-vous bien qu'il y en a un autre qui est là quelque part, qui s'est accroché à vous, qui vous tient et qui ne vous lâchera pas. Est-ce que vous acceptez qu'on fasse une prière de délivrance? Donc il a accepté, pas de problème. Et c'est étonnant parce que après la prière, ça c'était le matin. L'après-midi, c'était la première journée, hein, l'après-midi, il nous demande est-ce qu'il y aurait la possibilité de se faire couper les cheveux, parce qu'il avait des cheveux très longs qui descendaient jusque dans le bas du dos presque. Il s'est fait couper les cheveux par les communautaires là, qui nous accueillaient, première chose. Et le lendemain, il a demandé parce qu'il était habillé bien sûr en femme, il a demandé des habits d'homme. Et ce qui était étonnant, c'est que j'accompagnais une personne qui était SDF. Donc elle était venue dans ce qu'elle était au niveau des habits, et je la vois avec un super look. Elle avait récupéré la valise de robe, de jupe, de tout ce que cet homme lui avait donné. C'était absolument extraordinaire. Là, c'est une résurrection totale, quoi.
Alors, Daniel Desbois, on va faire un tout petit peu de pédagogie. Aujourd'hui, on est toujours dans la première retraite, parce qu'en fait, c'est retraite de guérison intérieure. Vous m'avez dit en préparant l'émission, là, il y en a une qui dure 7 jours et après une de 3 jours. Il y a Agapé 1, Agapé 2. La première, c'est prendre conscience en fait de ce qui se joue à l'intérieur de nous et rentrer au désert. Et puis après, la deuxième, c'est de trouver la porte de sortie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être à gros traits quel est l'objet de cette première grande retraite de guérison de 7 jours?
Alors, la première grande retraite, ça va être de prendre conscience que je suis innocent. Première, première constatation, c'est ok, d'accord, j'ai l'histoire que j'ai, elle est ce qu'elle est, mais à la base, même si on peut me dénoncer, me dire oui, mais c'est normal, puisque ce que tu fais, ça, que ça entraîne des difficultés chez toi, mais c'est tout à fait normal. Si tu changeais tes comportements, mais il faut bien savoir que si la personne, elle vit ce qu'elle vit et elle fait ce qu'elle fait, et même si c'est maladroit, même si c'est pas adapté, c'est pas de sa faute.
Même si elle a une part de responsabilité aussi.
Même si elle a une part de responsabilité, pour le moment, on ne s'en occupe pas. On s'occupe de la rencontrer dans son innocence blessée. Parce que cette première agapée, ça va être de restaurer sa dignité, d'être. C'est une personne à part entière. Et elle a besoin d'être innocentée. Et ça, c'est la première chose qui va être demandée au Seigneur. Seigneur, viens la consoler, viens la rendre digne d'être ce qu'elle est. Qu'elle croit qu'elle a toujours été aimée de toi, Seigneur, mais qu'elle croit qu'elle est aussi une merveille, qu'elle est à tes yeux, qu'elle est une merveille. Et c'est le but de cette première agapée, c'est d'amener la personne à faire cette approche de la dignité qui l'habite. Parce que même si ma vie apparemment est pourrie, à l'intérieur, il y a une beauté, il y a un joyau qui est à préserver.
Voilà, ça vous insistiez beaucoup au long de ces émissions. En tout cas, c'est très frappant d'entendre cette innocence blessée, ce cri en fait, ce cri d'un enfant quelque part, non ?
Ah oui, absolument.
Qui est au cœur de chaque personne.
Ah oui.
Ensuite, dans cette première partie, donc j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur le mécanisme qui nous tient en esclavage, puisque vous avez donc ces images bibliques en disant que on est tous quelque part un peu en Égypte. Il s'agit de traverser la mer Rouge, de sentir un appel intérieur, donc un appel divin, puisque c'est quand même des retraites de guérison spirituelle dans un cadre chrétien, pour rentrer au désert et un jour marcher en terre promise. Ce mécanisme, vous me l'avez rappelé très sympathiquement avec un petit schéma, blessure, croyance, décision, esclavage. Expliquez-nous un peu ce chemin à nouveau.
Alors, un enfant, quand il vient sur terre, il n'attend qu'une seule chose, même s'il n'en a pas conscience au départ, mais il est fait pour l'amour. Il attend d'être aimé infiniment. Alors il est évident qu'il va être remis entre les mains d'un homme et d'une femme qui sont ce qu'ils sont, qui sont blessés, plus ou moins, et qui fait que c'est eux qui vont l'éduquer à l'amour. Et pour cet enfant, ce papa et cette maman vont être des représentants de Dieu. C'est-à-dire que lui, il attend qu'une seule chose, c'est d'être totalement aimé. Mais s'il y a des difficultés, si le couple est en difficulté, s'il y en a un des deux qui souffre de quoi que ce soit, l'amour va être obligatoirement altéré chez l'enfant parce qu'il ne va pas recevoir la dose d'amour qu'il attend. Ce qui se passe, c'est que dans la mesure où l'enfant commence à vivre le manque, il va être prudent par rapport à l'amour. Il va y avoir le langage de l'amour qui va commencer à se déformer et il va apprendre à faire avec. Il va vivre dans ce contexte qui est le sien, il va apprendre à faire avec. Mais la manière qu'il va choisir pour faire avec, c'est un positionnement qu'il va prendre très tôt. Un positionnement, si l'enfant est rejeté du papa, et qu'il a conscience que ce papa, il l'aime pas comme il faudrait qu'il l'aime, il va se positionner. Soit en étant complètement rabougri, puis ça veut dire que jamais je serai aimé dans ma vie par papa, il va construire sa vie sur la difficulté à être aimé. Vous voyez, j'avais évoqué la dernière fois, pour ma part, moi j'avais un père qui était très dur. Et
Un boxeur,
un homme qui était très dur, assez fort, quoi. Hein. Et quand il donnait une fessée, ça faisait mal. Et j'avais posé cette croyance qu'un jour je serai plus fort que toi. J'ai bâti ma vie là-dessus. Un jour, je serai plus fort que toi. C'est une catastrophe. Mais quoi qu'il en soit, c'est un positionnement, une décision qui a été l'objet de ma construction, la construction de ma personnalité, jusqu'à ce qu'un jour, à 47 ans, par grâce, le Seigneur vient nous visiter à la maison et puis vient convertir notre cœur. Et là, j'ai entrepris un chemin de désencombrage de mon histoire. De désencombrement, je ne sais pas comment on dit. Hein.
Désencombrement.
De désencombrement de mon histoire. Et ça, c'était absolument fondamental.
Donc ça, c'était votre croyance.
C'était ma croyance.
Votre décision, c'était de tout mettre en œuvre pour être à la hauteur de votre croyance, c'est ça ?
Pour être plus fort que lui. Et ça a été le leitmotiv. Un jour, je serai au-dessus de toi. Ce qui fait que j'ai toujours été confronté à des autorités pour les dépasser. Ça, c'est une erreur qui est fondamentale. Quoi.
Donc, c'est ce qui vous tenait en esclavage, quelque part.
C'est ce qui me tenait en esclavage.
Ce qu'on comprend, c'est qu'une partie de votre vie était orientée, mais d'une mauvaise manière, parce que vous répondiez à une blessure par une croyance ou une décision qui n'était pas juste.
Qui n'était pas juste. Et en fin de compte, ça a été bien après, quand j'ai rencontré le Seigneur, que je me suis rendu compte que mon père, il faisait ça parce qu'il m'aimait. Il voulait faire de moi un homme, tout simplement. Et ça, Je l'ai compris beaucoup plus tard.
Alors dans ce mécanisme, donc blessure, croyance, décision, esclavage, un jour, donc on entend une voix, vous vous dites que c'est ce qu'on appelle une effusion de l'esprit que vous avez reçue hein, un jour, ouais. Comme ça, vous dites chez vous, hein, cet appel à entrer dans le désert, vous l'avez dit au long de nos premières émissions, souvent c'est qu'on n'en peut plus et on finit par crier vers Dieu. Est-ce qu'il y a, je sais pas, d'autres manières de s'y prendre? Qu'est-ce qui fait qu'un jour on décide de franchir comme ça la mer Rouge, de se retourner et puis de décider d'aller voir ailleurs qu'en Égypte?
C'est la souffrance. Je vois que ce soit les personnes que j'accueille au cabinet, ben, ce sont des personnes qui souffrent, qu'ils ont une âme qui est en douleur, qu'ils ont du mal à croire en eux, qu'ils ont du mal à se laisser aimer, qui ont du mal à aimer, qui sont en difficulté, qui sont en dépression, qui souffrent. Et c'est la souffrance qui va être un appel au changement. Alors, c'est vrai que ça peut paraître, on peut changer sans avoir besoin de souffrir. Mais ça, c'est une actualité. Ça, on veut faire de nous des gens toujours plus forts, toujours plus grands, toujours plus beaux. Mais dans le fond, c'est pas parce que je suis quelqu'un qui réussit dans la vie. Ça veut pas dire que pour autant, je suis bien intérieurement. Et là, les personnes qui viennent, que je rencontre, moi, ce sont des personnes qui sont profondément touchées, profondément blessées. Et qui ont besoin de crier vers Dieu, qui ont besoin d'être accompagnées. Peut-être elles ne sont pas toutes croyantes, hein, évidemment, mais elles ont besoin d'avoir une oreille qui les entende et qui voit qu'après tout, elles ne sont pas si méchantes que ça, elles ne sont pas si nulles que ça, elles ne sont pas si indignes que cela. Elles ont juste besoin d'avoir un regard positif sur elles.
Est-ce que, Daniel Desbois, on a tous, en fait, d'une manière ou d'une autre, sans tous tomber peut-être dans une dépression profonde ou en ayant des grandes fragilités psychologiques, même temporaires. Est-ce qu'on a tous ces croyances, ces décisions, ces formes d'esclavage? Est-ce que quelque part ce chemin intérieur, quand on est chrétien, à un moment on est forcément appelé à le vivre?
Oui, on a nécessairement, du fait qu'on est pécheur dès le sein maternel, ce qui veut dire que si je suis pécheur et que je vais être confronté, même si je suis dans un milieu très rempli d'amour, le petit enfant, il est heureux avec son papa, sa maman, un jour il va aller à l'école. Et à l'école, il va se rendre compte que, curieusement, les enfants ne sont pas tous comme lui, bons, gentils. Il va se faire bousculer, il va découvrir une certaine rudesse de la vie qui va le toucher, qui va l'affecter. Heureusement, papa et maman vont être là pour le consoler, mais il va découvrir le mal. Ce fameux mal de notre monde, il va le découvrir, il va devoir faire avec. Et là, c'est dès l'instant où il va être blessé, que ce soit à l'intérieur de la famille ou à l'extérieur, hein, dès l'instant où il va être blessé, automatiquement, il va poser quelques comportements, quelques manières d'être, quelques manières de faire pour faire avec. Et c'est là qu'il va commencer à tordre sa personnalité. C'est là qu'il va commencer à douter de l'amour. Et c'est là qu'il va se transformer, pas selon la nature, mais selon une adaptation au monde.
Avant qu'on fasse une première pause, j'aimerais que vous nous parliez de ce qu'on peut espérer quand on sort un jour de ce désert, même si aujourd'hui c'est pas l'objet de cette émission de parler de la fin de la marche dans le désert, mais plutôt de finir de rentrer dans le désert dans cette troisième émission. Quelle différence, on va dire, quand on a fait ce chemin de guérison intérieure, donc ces deux agapés thérapies, entre l'homme que l'on était et l'homme que l'on devient, quelle liberté intérieure on acquiert, et du coup quel bonheur?
La grande liberté, c'est de se savoir aimer. La grande liberté, c'est de pouvoir aimer. Donc l'âme qui a été blessée, elle a été blessée au niveau de l'amour. Dans la mesure où la personne a fait tout un travail, un cheminement qui l'a amené bien sûr de l'Égypte dans le désert où elle a tournicoté pendant des années, puis qu'elle passe le Jourdain et qu'elle se retrouve en terre promise, eh bien à ce moment-là, elle va goûter l'amour de Dieu d'une part, ce qui est absolument fondamental. Elle va s'appuyer sur les vertus théologales. Le passage du Jourdain, c'est le lieu du Christ quand il a été baptisé. Donc elle va faire appel justement à toutes ces forces, ces vertus qui sont fondamentales pour elle, qui vont lui donner la vie, et dans la mesure où elle va vivre cette richesse qui l'habite, elle acceptera sa pauvreté. Je crois que la grande victoire, c'est pas d'être un surhomme ou une surfemme, une superwoman, non. La grande richesse de la terre promise, c'est de savoir que c'est dans ma pauvreté que le Christ va me rejoindre et que toutes les grâces vont m'être données là. Si j'accepte ma pauvreté, je vais accepter mon histoire, même si j'ai été très blessé. Je ne vais pas changer, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts. L'important, c'est que j'arrive à m'aimer comme je suis. Et je me rappelle, c'était le pape Jean XXIII, on lui avait demandé, on lui avait posé la question, mais qu'est-ce qui fait que vous avez une telle bonhomie? Il avait répondu tout simplement, parce que je m'aime. Et je crois que la personne, quand elle arrive, j'en suis absolument convaincu, la personne, quand elle arrive à s'aimer dans ses limites et dans ses pauvretés, elle est en terre promise.
On va faire une première pause et puis on va vous retrouver en teasing de cette deuxième partie. Donc on va se plonger dans trois grandes blessures, je le disais ce matin avec Isabelle O'Neill, trois grandes blessures qu'a identifié Saint Jean-Paul II, la blessure d'identité, la blessure de communion et de participation. Vous aidez chacun lors de ces retraites de guérison à comprendre ce que sont ces trois grandes blessures et ce qui se joue à l'intérieur. On va voir tout de suite, on va voir ça tout de suite après cette pause musicale avec vous. Dieu peut-il guérir ? C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, troisième émission de notre grande série de carême pour ceux qui nous prendraient en cours de route. Nous sommes avec Daniel Desbois qui est psychologue et cofondateur des Agapés, retraite de guérison intérieure du Puy-en-Velay. Pour rappel, les retraites de guérison du Puy-en-Velay, c'est, je vais le dire à la place de Daniel Desbois parce que probablement que ça le mettra mal à l'aise, mais ça fait partie des retraites, voire de la retraite de guérison la plus sérieuse en France. Accompagné entre autres par Monseigneur Crépy, évêque du Puy-en-Velay, et aussi, on le dira au long de cette émission, enfin peut-être à la fin de cette émission, François Buet, hein, qui est l'aumônier de ses retraites et qui est donc un prêtre de l'Institut Notre-Dame de Vie, docteur en théologie et qui a écrit un livre de la libération à la vie dans l'esprit. On redonnera les coordonnées, enfin les références à la fin de cette émission, mais preuve que tout ça est très sérieux et que vous ne faites pas ça tout seul dans votre coin, Daniel Desbois. Alors ces trois grandes blessures de Saint Jean-Paul II, déjà, dans quel contexte Saint Jean-Paul II a parlé en fait de ces blessures? Comment vous sortez ça de votre chapeau, Daniel Desbois?
Mais il est parti tout simplement du fait que l'homme a été créé pour faire le bien. C'est-à-dire qu'à la base, l'homme est bon. Et s'il a été créé pour faire le bien, il a été créé surtout, en fin de compte, au travers du prisme de l'amour, de la vérité et de la vie. Donc toute construction qui se fait par amour va donner vie à la personne. Et la personne qui est dans la vie, elle va être obligatoirement, dans l'amour et dans la vie, elle va être obligatoirement dans la vérité. Et ce qui veut dire que, et c'est à l'occasion de ces méditations sur le don de soi, il s'est rendu compte que pour pouvoir se donner, il faut respecter l'autre. C'est-à-dire, il faut respecter l'amour chez l'autre, la vie chez l'autre. Il faut respecter la vérité chez l'autre et le mettre en situation. Ce qui veut dire que dès l'instant où une personne va être blessée, dès l'instant où une personne va être blessée par une autorité, par un papa, un maman, un éducateur ou autre, un professeur, dès l'instant où elle va être blessée au niveau de l'amour, elle va être blessée au niveau de la vie. Dès l'instant où elle est blessée au niveau de l'amour et de la vie, elle va commencer à rentrer dans une fausse image d'elle-même, c'est-à-dire dans le mensonge. Parce qu'elle va essayer de camoufler, je disais là tout à l'heure, on est tous à camoufler notre pauvreté, notre vulnérabilité, elle nous fait peur. C'est bien Adam, c'est bien ce qu'il avait dit hein, au départ. Il avait dit à Dieu qu'il avait peur. Pourquoi il avait peur de sa vulnérabilité? On en est tous là. Ce qui veut dire que dès l'instant où j'ai peur de ma vulnérabilité, je vais me construire une personne qui n'est pas moi. C'est-à-dire je vais rentrer dans le mensonge. Eh bien, Saint Jean-Paul II, il est parti du principe que surtout éducateur, ne détruisez pas l'autre. C'est-à-dire respectez l'identité, respectez la vie de l'autre. La deuxième blessure qu'il a dit, surtout, n'usez pas l'autre. C'est-à-dire, n'amenez pas la personne à être aimée pour ce qu'elle fait et non pas pour ce qu'elle est. Ne l'usez pas à faire des choses, des complications pour pouvoir être aimée, pour pouvoir être valorisée. Aimez-la pour ce qu'elle est. Et la troisième blessure pour les éducateurs, dans le don, il leur demande, et surtout, ne diminuez pas l'autre. Parce que diminuer l'autre, c'est déjà se mettre au-dessus de lui. Se mettre au-dessus de lui, c'est-à-dire prendre la parole, prendre toute la place. Et je vois combien de personnes que j'accueille, combien de personnes n'ont pas eu le droit d'exister, même au niveau de la parole, parce qu'il y en a un, que ce soit le frère aîné, que ce soit le père ou la mère, qui prend la place de la parole de l'autre et qui l'empêche d'être, qui l'empêche d'exister. Vous voyez ? Et là, c'est la diminution qui ratatine la personne et qui l'empêche d'être dans l'amour, d'être dans la vérité et d'être dans la vie.
Donc vous dites donc que le 8 février 1994, il a écrit la chose suivante: pour être un don pour l'autre, je dois avoir cette ligne de conduite suivante, donc ne pas détruire, ne pas user et ne pas diminuer l'autre au risque d'inscrire donc des blessures profondes autour donc de l'identité, de la communion et de la participation. Alors si on se penche sur la première, la blessure d'identité, la racine serait le refus d'accueillir la vie. Ouais. D'une personne. Ouais. Est-ce que vous pouvez prendre un exemple pour rendre ça plus concret?
Oui, je vais vous donner un exemple. Donc, juste pour la définir, la blessure d'identité, c'est quand l'enfant à venir, il n'est pas accueilli. Il n'est pas accueilli, et puis l'enfant qui commence à grandir, il va se rendre compte qu'il est peut-être rejeté, peut-être que l'amour va être trahi. Je vais vous donner un exemple très simple. C'est une jeune femme qui souffrait d'un vide extrême qu'il habitait, un néant qu'il habite en elle, et qui la rendait d'une tristesse épouvantable. Elle était en danger même, elle était en danger par rapport à sa vie. Elle avait envie de mourir. Et à l'occasion de ce qu'elle développe de sa vie, elle me donne une croyance en fait. Elle me dit, mais personne ne s'est jamais intéressé à moi. Donc quand on me donne une croyance comme ça, ça rentre dans l'oreille et ça reste, hein. Je vais essayer de savoir qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle me dit « mais personne ne s'intéresse à moi ». Et elle me raconte qu'à sa naissance, son père et sa mère attendaient un garçon. Pas de chance, hein, malheureusement c'est une fille qui arrive, c'est elle. Et elle a été marquée particulièrement par la déception de son père de manière très très forte. Son père était un homme qui était très intéressant par les garçons. Et il a éduqué ses garçons avec énormément de valorisation. Et très tôt, elle avait 5 ans, 6 ans, elle s'est rendue compte qu'eux étaient aimés parce qu'ils étaient garçons. Mais elle, non, elle n'avait pas droit au câlin. Elle se rendait compte qu'il n'avait pas d'attention pour elle. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donc décidé, je ferai tout comme mes frères. C'est une décision qu'elle a prise. Je ferai tout comme mes frères, c'est ce qu'elle a fait. Elle a grandi là-dessus, elle est devenue adulte. Et elle a vraiment réussi dans sa vie. C'était une femme qui était hyper compétente, mais malgré sa réussite sociale, qu'elle exposait à son père, elle n'avait pas le retour de valorisation, elle n'avait pas le retour aimant d'un père qui la reconnaît, qui lui dit « tu es ma fille bien-aimée ». Eh bien, c'est là-dessus qu'elle a eu confirmation qu'il ne s'intéresse pas à elle. Et le fait de ne pas s'intéresser à elle, ben, ça l'a mis dans des situations déplorables, parce qu'elle s'est rendue compte que, en plus, sa mère, elle s'est rendue compte que sa mère, qui rejetait totalement sa féminité, ça c'était tout à l'heure le côté père, le côté mère, c'était pas mieux, hein, parce que la mère rejetait toute sa féminité, et elle ne valorisait pas sa fille dans sa féminité.
Mais Daniel Desbois, là vous prenez un exemple qui évidemment est très frappant. Est-ce que ces blessures d'identité, de communion et de participation, on les vit tous d'une manière ou d'une autre? Ou est-ce que ce sont des cas extrêmes comme celui que vous décrivez?
Non, c'est pas un cas extrême. Hein. Non,
le cas que vous prenez est quand même particulièrement, on va dire, corsé, non?
C'est plus ou moins corsé, mais là, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de personnes. Hein. Là, c'est un cas. Bon, là, alors, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, elle a compris que pour être aimée, il faut être un garçon. Mais heureusement, elle n'a pas basculé donc dans l'homosexualité. Mais quoi qu'il en soit, avec son mari, c'était difficile parce que dès l'instant où son mari lui faisait un compliment, qui lui disait comme tu es belle, je t'aime, eh ben, elle fuyait, ça la mettait en colère. Dès l'instant où elle reçoit un compliment de sa féminité, ça allait à l'encontre de ce qu'elle attendait. Alors je lui ai simplement posé la question, mais imaginons, vous n'avez pas de problème, il y a aucune, vous êtes parfaite, vous avez tout ce qu'il faut. Et je lui ai dit, vous êtes femme, qu'est-ce qui se passerait pour vous si vous acceptiez tout à fait votre féminité? Elle me disait, ça serait terrible. Ah bon? Et en quoi ça serait terrible? Parce que je serais orpheline à ce moment-là de mon père. Tant que je suis dans ce combat, j'espère qu'un jour il va me regarder avec attention. Mais là, c'est un cas qui est courant, c'est pas exceptionnel, sous d'autres formes.
Donc là, c'est la première blessure, donc la blessure d'identité, le refus d'accueillir la vie, complètement la vie d'une personne, d'un enfant, qui du coup est blessé dans sa dignité.
Oui, c'est ça.
La deuxième blessure, c'est donc une blessure de communion. Elle représente le besoin de rencontrer l'autre, d'être aimé, de lui, de partager la joie d'être ensemble, mais il arrive parfois qu'il n'en soit pas ainsi. C'est pareil, vous pouvez commencer par un exemple.
Je vais vous donner l'exemple d'un homme qui vient suite à un burn-out. Donc c'est monnaie courante, hein, il y en a beaucoup. Il vient suite à un burn-out, ça fait déjà un an qu'il est piégé par une dépression suite à ce burn-out, parce qu'en plus il a perdu aussi son travail. Et il se considère comme une personne complètement inutile. Il a une valeur forte dans sa vie, c'était d'être utile. Et bien là, il se considère tout à fait comme inutile. Et alors, j'essaie de savoir un petit peu quelle est la base de son histoire. Et il me dit que sa mère est dépressive et que son père est un violent. Bon, un violent alcoolique qu'il a toujours traité comme un pauvre type à son fils. Eh bien, dans la mesure où cet homme-là, ce père-là, qui était avec en plus un couple qui ne marchait pas bien, quand il a eu l'image de ce père alcoolique qui était violent, qui en fin de compte malmenait sa maman, il a décidé, jamais je ne serai comme mon père. Jamais je serai un homme comme mon père. C'est-à-dire que jamais je serai un pauvre type. Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Il a décidé de réussir dans sa vie. Et très tôt, il a mobilisé son intelligence et tous les moyens possibles et imaginables pour réussir. Et il a réussi. À 45, il a réussi dans le commerce international. Et à 45 ans, il était un grand patron. Il était un grand patron, mais il était tellement grand patron qu'il s'est donné à un point tel qu'à un moment, il y a eu le burn-out qui l'a fait tomber de son piédestal. Ça veut dire qu'il est tombé de haut. Eh bien, avant de vivre ce burn-out, il a eu, c'était un an avant, c'est pour dire un an avant, quand il était au sommet de sa réussite, il a décidé, alors que ça faisait 15 ans, ou près de 15 ans, 15 à 20 ans, qu'il n'avait pas vu son père, il a décidé d'aller voir son père. Et de lui dire, tu vois, regarde ce que ton pauvre type de fils est devenu. Parce qu'il est venu avec une super grosse voiture pour éclabousser le père et l'humilier. C'était sa vengeance. Si tu, voilà, tu as voulu te faire de moi un pauvre type, tu as cru que j'étais un pauvre type, vois la reconnaissance que j'ai au niveau social. Burnout qui arrive, il tombe, et là tout d'un coup il devient intelligent. Tout d'un coup il prend conscience combien lui aussi, c'est un pauvre type, d'avoir été humiliant comme ça vis-à-vis de son père. Il a pris la notion de l'amour au fond qu'il avait vis-à-vis de ce père-là, auquel il n'avait jamais eu accès. Il avait besoin que d'une seule chose, d'aller lui demander pardon pour retrouver ce père-là et retrouver sa dignité d'être fils. Parce qu'il me dit, ben là aussi dans ce cas-là, il me dit, mais si je continuais dans cette réussite, non seulement je serais coupé de mon père, mais je serais orphelin de mon père, sans racine.
Alors la blessure de communion, ça veut dire quoi là du coup? Ça veut dire qu'en fait, il faut faire quelque chose pour mériter l'amour de quelqu'un, c'est ça?
Alors la blessure de communion, c'est ça, c'est que l'amour se gagne au mérite. Plus je fais des efforts, plus je réussis, eh bien, plus je vais avoir la valorisation. Mais c'est un amour frelaté, parce que l'amour qui est donné parce que je réussis, c'est un amour qui ne vaut rien. L'amour gratuit, c'est un amour vrai. C'est l'amour de Dieu, mais l'amour des autres aussi. On ne nous demande pas de faire des pirouettes pour pouvoir être aimé. Donc, vous voyez, le langage est complètement faussé. Et une personne qui est dans la réussite comme ça à tout prix, malgré elle, elle va se mettre dans le mensonge. Parce que pour elle, il est important de trouver toutes les astuces nécessaires pour pouvoir réussir dans la vie.
Mais alors, même question, Daniel. Là, vous prenez un exemple quand même relativement extrême. cette blessure de communion, nombre de personnes la vivent à des proportions moindres, dans des proportions moindres.
Non, toute personne qui veut réussir dans sa vie, il va y avoir un certain seuil. Ça ne veut pas dire que parce que je réussis dans ma vie, je vais être dans une blessure obligatoirement. Non, ce qui va faire l'objet du dépassement, de l'excès, c'est que je ne vais croire en l'amour que parce que je le gagne, cet amour-là. Et là, je peux vous dire qu'il y a des quantités de personnes qui font énormément d'efforts. Je pense à une amie, une amie qui me dit, c'est une personne qui était très à l'écoute des autres, très dans le service, énormément dans le service. Voilà, toujours à porter les autres, qui étaient souffrants, et elle avait un charisme très très beau parce qu'elle réussissait justement à avoir des résultats entre guillemets formidables parce qu'elle arrivait à relever les gens, et c'était très beau. Et puis, elle aussi, elle a été trop loin. Elle a été trop loin, elle a vécu un burn-out pendant aussi 8 mois. Et elle me dit un jour, et ça m'a fasciné, ça m'a frappé quand elle me dit ça. Elle me dit, tu te rends compte, Daniel, je suis en train de découvrir que j'avais besoin de la souffrance de l'autre pour pouvoir exister. C'est-à-dire que sa nourriture, c'était la souffrance de l'autre, parce que l'autre lui renvoyait le fait qu'elle était une belle personne. Et là, elle se retrouve pendant 8 mois... sans avoir à donner quoi que ce soit, elle se retrouve dans ce vide, et en même temps c'est là qu'elle a rencontré la vérité. Elle a quitté le mensonge, et là c'est une personne qui est magnifique.
Alors, ne pas détruire, ça c'est la blessure d'identité, lorsqu'on refuse en fait d'accueillir pleinement la vie de quelqu'un, d'un enfant, et donc c'est une blessure de l'ordre de la dignité de la personne, ressentie comme telle. Ne pas user, ça c'est la blessure de communion, tout ça c'est pas du Daniel Desbois dans le texte, c'est du Saint Jean-Paul II. Même si c'est vous qui travaillez à l'explicité, ne pas user, donc c'est la blessure de communion, l'amour n'a pas à se mériter. Et la dernière, c'est ne pas diminuer, Saint Jean-Paul II appelle ça donc la blessure de participation, même chose, on peut entrevoir ce qu'il y a derrière, hein, mais expliquez-nous davantage.
Eh bien là, la blessure de participation, c'est, je vais vous donner un exemple, hein, c'est un jeune homme de 35 ans, qui vient parce qu'il n'a pas confiance. Et puis je peux vous dire qu'il y en a des tonnes de personnes qui n'ont vraiment, vraiment pas confiance en elles. Donc ce garçon, il vient parce qu'il n'a pas confiance en lui. Et il me développe ce qu'il a à me développer. Il me dit, je crains toujours de mal faire, je ne suis pas intelligent. Il avait la certitude qu'il n'était pas intelligent. Pourtant, il avait un boulot d'ingénieur. Je me dis, bon, c'est curieux, il n'aurait pas réussi s'il n'avait pas été intelligent. Et il me dit, j'ai toujours peur de mal faire, je ne suis pas intelligent. Mais alors, je lui demande, mais qu'est-ce qui vous amène à dire que je ne suis pas intelligent? Parce qu'il me dit, j'ai jamais eu mon propre point de vue. Ma mère avait toujours raison, c'est elle qui avait la parole, c'est elle qui parlait pour moi. Moi, je me soumettais toujours à ce qu'elle me disait, et j'étais toujours le petit garçon très gentil, très obéissant, qui faisait ce que maman disait. Mais il disait, mais même pour m'habiller, je passais par elle. Maman, est-ce que c'est ce pantalon que je vais mettre, plutôt cette chemise? Ils me disent, mais c'était d'une aberration. Et donc, c'est un garçon qui s'est retrouvé dans une soumission totale à la parole de l'autre. C'est-à-dire sa parole à lui, il n'y avait pas accès. Et s'il était ingénieur, c'est parce que c'est sa mère qui lui a demandé d'être ingénieur. Alors il se rend compte que, ben voilà, de toute façon je suis soumis à l'autre, j'ai toujours été comme ça, je ne suis rien du tout.
Son avis n'a pas d'importance.
Il se rend compte que, en fin de compte, la conclusion, il se rend compte que toute sa vie, il a refusé de choisir pour ne pas prendre le risque de se tromper. Parce que choisir, c'est sa mère qui choisissait. Là, si lui, il choisit puis qu'il se trompe selon ses critères à lui, eh ben, il est en échec. Donc ça veut dire que maman, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Donc il n'a jamais fait de choix. Et il se retrouve aujourd'hui avec une jeune femme. Cette jeune femme, il me dit, mais je ne l'aime pas. Mais je lui dis, qu'est-ce que vous faites avec alors cette personne? Il me dit, c'est elle qui m'a choisi. Donc vous voyez, il va constituer un couple sans amour. Tout simplement parce que on le choisit, on prend les initiatives pour lui, parce que lui ne sait pas. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Vous voyez, et tout l'accompagnement, ça a été de le désencombrer de cette fausse croyance qui disait qu'il n'était pas intelligent. Surtout le désencombrer de sa mère. Vous voyez, c'était le travail. Une fois qu'il a compris qu'il était intelligent et qu'il pouvait choisir, même si ça ne convenait pas à sa mère, il avait le droit à la liberté d'être et d'exister.
Mais Daniel, les trois blessures que vous décrivez donc à la suite de Saint Jean-Paul II, ne pas détruire, ne pas user, ne pas diminuer les personnes, ce sont des blessures que l'on inflige aux personnes, ou est-ce que parfois ce n'est pas, on va dire, forcément si grave, mais c'est la manière de prendre les choses qui entraîne la blessure. J'espère être à peu près clair. On peut imaginer que tout parent a ses limites, que les exemples ne sont pas toujours aussi extrêmes que ceux que vous décrivez, mais que parfois tel ou tel enfant peut prendre les choses d'une manière particulière.
Oui. Je vais vous donner un autre exemple. Je vais vous donner un autre exemple, le mien, vis-à-vis avec ma maman. J'étais un enfant plutôt agité, donc je courais un petit peu partout, et sûrement que je devais énerver maman. Et ce qui se passait, alors je devais avoir 4 ans, 5 ans. Ma mère, très tôt, quand j'étais trop agité, qu'elle n'arrivait pas à me contrôler, elle me disait, t'es plus mon fils. Ah, quand elle me disait, t'es plus mon fils, pour moi c'était terrible. Quand j'entendais cette phrase, je peux vous dire que je me mettais à genoux, je faisais tout ce qu'il fallait pour séduire ma mère, pour la récupérer. Et une fois que j'en avais fait, j'estimais que j'en avais fait suffisamment, j'allais la supplier, je lui demandais cette phrase que j'attendais d'elle, je lui disais, t'es mon fils. J'attendais qu'elle me dise ça. Et elle me disait, non, t'es pas mon fils. C'était pas encore le moment. Je revenais deux fois, trois fois, t'es mon fils. Non, t'es pas mon fils. Ben, je peux vous dire que j'ai construit, là aussi, toute une part de ma vie pour séduire l'autre. Pour récupérer l'amour de maman, j'étais prêt à faire n'importe quoi. Il fallait qu'elle me dise, t'es mon fils. Il fallait que j'ai cet amour. Mais vous vous rendez compte, ça fait partie encore de mes obligations de réussir. Là, en faisant des pirouettes, pour pouvoir avoir cette phrase, oh oui, t'es mon fils. Vous voyez, mais c'est pas de l'extrême, ça.
Non, c'est quand même une parole dure, hein, mais, mais on imagine que là, ça arrive à bien d'autres personnes. On va faire une deuxième pause musicale et puis on vous retrouve, Daniel, pour continuer cette traversée, cette entrée dans le désert avec vous.
Thank you. Présence aux portes du Tarn, 97.9.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Dieu peut-il guérir ? C'est pour rappel donc le thème de cette émission Vivante Église, troisième émission donc de notre série de carême avec Daniel Desbois, psychologue, cofondateur des Agapés, ses retraites de guérison intérieure du Puy-en-Velay. Dans cette dernière partie d'émission, Daniel, maintenant qu'on est entré dans le désert avec vous, en ayant pris conscience donc de l'esclavage intérieur dans lequel on pouvait être, et de ces trois grandes blessures que l'on porte au cœur, donc je rappelle, blessures d'identité, de communion ou de participation, selon Saint Jean-Paul II, d'une manière plus ou moins prononcée. Lors des agapés, en tout cas de la première grande retraite de guérison, donc de 7 jours, cette fameuse agapé 1, intervient alors une étape importante, c'est l'étape de la consolation. Racontez-nous.
Vous savez, quand un enfant tombe, afin de le dénoncer, de lui dire « mais tu cours trop vite, voilà, tu fais des bêtises, c'est normal », la première chose qui l'attend, c'est qu'on le console. C'est-à-dire qu'on va le prendre dans les bras, on va le rassurer, on va lui essuyer les larmes, et après, on pourra lui dire « tu vois, il faut que tu sois un petit peu plus prudent quand tu prends ta trottinette ou tu fais ceci ou cela ». La consolation est un impératif, parce que l'enfant qui va tomber va être humilié d'être tombé, parce que peut-être on l'a vu, il y a d'autres, un monsieur ou une dame qui passe à côté, qui le voit, il est humilié, il a besoin d'être rassuré. Ben nous c'est pareil. Et particulièrement quand on est en difficulté, qu'on est en chute, on est humilié aussi, mais à nos propres yeux. À nos propres yeux on est humilié. Mais c'est vrai que si je n'ai pas eu la chance d'avoir je sais pas, un père valorisant, rassurant, qui me confirme, même si je me trompe. Là, je vois en ce moment, j'ai mon fils là, qui aujourd'hui, en même temps que moi je suis ici, là, il est en train de passer son CAPES officiel d'histoire géo. Et l'important, je lui dis, mais tu sais, je sais Jean-Marie, je sais que tu as super bien bossé. Tu vas avec ce que tu es, de toute façon, tu ne peux pas tout restituer, il y a trop de choses à emmagasiner. L'important, c'est que tu sois heureux d'avoir fait ce que tu as fait. Si tu vas libre de cela en disant, de toute façon, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, si je réussis, tant mieux. Si je ne réussis pas, ce n'est pas grave. Donc, vous voyez, ce n'est pas humiliant qu'il puisse avoir dans sa tête, mais je suis sûr qu'il va réussir. Hein. Ça, de toute façon, il m'a dit, j'envisage pas de ne pas réussir. Mais enfin, quoi qu'il en soit, je lui dis, mais même si tu ne réussis pas, ce n'est pas grave. Donc, vous voyez, cette humiliation que l'on a à pas même faire plaisir à l'autre ou à son papa, à sa maman, on a besoin d'être consolé.
Alors quelle forme ça prend dans les retraites de guérison ? C'est-à-dire que on a donc des accompagnateurs lors de ces retraites de guérison et on peut demander la prière et on demande en fait à Dieu de venir
oui.
Alors, consoler cette personne ?
Voilà, oui, par exemple, je vais vous donner l'exemple pour une blessure d'identité. Je vous rappelle tout à l'heure ce que l'on a évoqué, cette personne qui disait, cette femme, qu'en fin de compte, il faut être un garçon pour pouvoir être aimé. Eh bien, cette personne-là, elle aura besoin d'être consolée pour pouvoir accepter d'être femme. Qu'elle puisse accepter d'être femme, et c'est pas pour autant qu'elle sera orpheline de son père. Donc tant qu'elle n'a pas eu cette consolation des « vas-y, accepte d'être femme », que le bon Dieu lui dit « mais moi je t'ai voulu comme ça, je t'ai voulu fille, je t'ai voulu femme », eh bien, il n'y a que le bon Dieu, si elle est priante, bien sûr, il faut que les deux, dans une prière de consolation, il faut que celui qui fait la prière ait vraiment la foi, Dieu est avec lui à ce moment-là. Mais la personne qui reçoit la prière de consolation, il faut aussi qu'elle ait la foi que c'est Dieu qui parle par lui ou par elle. Donc cette prière de consolation, ça va être pour libérer la personne de ses obligations qu'elle a pour, voilà, pour vivre ce qui est pas indispensable, parce qu'elle en fait trop. Ou...
Ça, mais, pas... mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait un tiers? Parce qu'on peut imaginer que vous pourriez renvoyer les gens aussi à leur prière personnelle et de demander de s'adresser directement à Dieu pour recevoir cette consolation. Et puis en plus, ça serait peut-être moins gêné de ne pas pleurer devant l'un ou l'autre.
La consolation, on la reçoit toujours de l'autre. Toujours. Une maman qui va consoler son enfant, un papa qui va consoler, eh ben, le bon Dieu qui va consoler son fils ou sa fille. On a besoin de recevoir de l'autre. Et c'est ce qui permet justement à la personne, souvent, ben, de pleurer. Parce qu'il y a la grâce qui passe. Et c'est vraiment cette consolation qui va restaurer la personne dans un nouveau choix de vie, d'amour et de vérité. Vous voyez, c'est ça qui est absolument fondamental, qu'elle puisse rentrer là-dedans. Et je vois pour... je peux prendre aussi pour le cas de cet homme qui dit jamais je serai comme mon père, parce que son père était alcoolique et qui le traitait de pauvre type. Il a compris que, voilà, il avait une très très belle réussite, mais en fait, il a eu besoin d'être consolé pour pouvoir accéder à... Comment je pourrais dire? Parce que le fait d'avoir tellement réussi, il était très fier de lui. Mais quand il a appris le burn-out, quand il a pris conscience qu'il avait humilié son père, à ce moment-là, il se retrouvait dans une indignité d'être. Il avait besoin d'être consolé, mais le Seigneur te pardonne. Et c'est parce que le Seigneur te pardonne par sa consolation qu'il a pu aller voir son père pour lui demander pardon.
Donc c'est ce qu'on appelle aussi dans le jargon des charismatiques une prière des frères ou...
C'est une prière des frères, oui, tout à fait. Ça, c'est la prière de consolation, c'est la prière des frères, il n'y a aucun problème.
Ça se passe comment, juste, en fait? Personne est dans sa chambre, et puis deux accompagnateurs qui viennent.
Voilà, donc je vais vous expliquer. Hein. Donc là, il y a deux accompagnateurs. Il y a la personne qui accompagne, bien sûr, cette personne, et il y a l'autre personne qui ne connaît pas l'histoire, mais qui va simplement, au moment où la personne va demander la consolation devant le Seigneur, là il y a la présence, hein, elle va demander la
présence réelle, vous voulez dire?
La présence réelle.
La présence de l'Eucharistie.
On va dans un lieu où il y a la présence réelle. Elle va s'adresser au Seigneur, elle va lui demander justement cette consolation sur ce qu'elle a, là où elle a besoin d'être consolée. Eh bien, parmi les deux personnes, la prière de consolation, c'est même pas la personne qui l'accompagne qui va la faire, c'est la personne qui est à côté. C'est parce qu'on travaille en binôme toujours. Quand il y a une personne qui est accompagnée, mais l'accompagnateur a toujours un vis-à-vis. Donc, il rentre pas dans le détail de l'histoire de la personne, mais il connaît l'essentiel, parce qu'il sait très bien qu'à un moment, il y aurait une prière de consolation à faire. Donc ça, c'est fondamental. C'est la prière des frères.
Deuxième étape importante, c'est cette fois une prière de délivrance. Vous en avez parlé au tout début de l'émission, à propos de cet homme donc, qui était transsexuel, c'est ça, hein ?
Oui.
Qui était arrivé en retraite de guérison. Qu'est-ce que c'est qu'une prière de délivrance ?
Alors, la prière de délivrance, il faut savoir que, étant donné qu'on est tous, on est tous sur on l'a dit tout à l'heure, sur des décisions, des croyances qui ont été posées, chacun de nous a son propre système de fonctionnement de survie. On a tous, on n'est pas des saints. Le saint, lui, il n'a pas de système de survie, c'est le Christ qui vit en lui. Nous, on n'en est pas encore là. Tant que le Christ ne vit pas pleinement en moi, il vit partiellement. Donc tant que j'en suis là, j'ai besoin petit à petit de laisser le Christ prendre la place. Mais ce qui veut dire que j'empêche la grâce d'être active en moi. Ça, ce sont mes chemins de traverse qui fait que je suis ce que je suis dans mes limites. Bien, la prière de délivrance va nous amener à prendre conscience de notre chemin de survie, parce que dans notre chemin de survie, dans les exemples que j'ai donnés, nous posons tous des actes qui peuvent nous détruire aussi.
Mais là, c'est un processus psychologique. En quoi il y a besoin d'une intervention spirituelle? Ce qu'on entend derrière prière de délivrance, une forme de délivrance spirituelle.
Eh bien, quand, par exemple, je prends l'exemple de la personne qui dit qu'il faut être, pour pouvoir être aimé de papa, il faut être un homme. Dites-vous bien que dans la mesure où elle est en train de dénaturer sa propre identité, il y a automatiquement un esprit malin qui vient s'accrocher à elle. Donc ça veut dire que sur le plan, mais celui qui n'est pas croyant, lui, il s'en rend pas compte. Mais celui qui est croyant, il sait qu'il va falloir qu'il y ait une intervention, comme on va voir en conflit.
Mais ça veut dire que dans nos chemins de mort, entre guillemets, psychologique, Il y a parfois ou toujours des réalités spirituelles qui viennent se greffer à ça.
Et oui, il y a toujours des réalités spirituelles dans la mesure où je suis ce que je suis, c'est-à-dire je suis pécheur. Il y a la part qui revient au sacrement de réconciliation, mais il y a la part d'actes que je pose, moi, des actes entre guillemets de mort, des actes de mensonge. Vous voyez, qui sont là, malgré moi, et qui fait qu'il va falloir que je demande au Seigneur de venir m'en défaire.
Ou de haine aussi, vous dites.
Et de haine aussi.
Il y a ce triptyque, mort, haine, mensonge.
Mort, haine et mensonge. Quand je vois, par exemple, cet homme-là qui a haïssé son père, obligatoirement, il y a un esprit de mort qui s'accroche à lui, parce qu'il avait le désir de se venger. Il faut bien qu'il se défasse de quelque chose. On va dire, oui, mais dans la mesure où il demande pardon. Oui, mais c'est pas parce qu'il lui demande pardon. Quand il y a des liens, il y a que le bon Dieu qui peut les couper. Donc, et là c'est une prière du prêtre.
Même question pour finir cette émission. Comment ça se passe? C'est-à-dire, c'est un ministre de l'Église qui...
Voilà, c'est ça. C'est un ministre de
l'Église. Qui est formé pour ça aussi.
Qui est formé pour cela. Et il va demander au Seigneur la grâce de libérer cette personne de tout acte de mort, de haine ou de mensonge. Pour qu'il puisse être sur le chemin de vie, d'amour... Et deux, le troisième, je ne m'en souviens plus, vie, vérité et amour. Voilà. Vous voyez, c'est important de savoir qu'on doit remettre la personne sur ce chemin d'espérance, c'est-à-dire de vie, d'amour et de vérité.
Et là, on est entré au désert.
Et là, on commence à... Et là, on est dans le désert.
On n'est pas encore en terre promise.
Et non, parce que voilà, le problème, c'est qu'il ne suffit pas que je sois consolé, il ne suffit pas que je sois délivré, il ne suffit pas que je connaisse mon chemin de survie, parce que je vais être content d'avoir été consolé. Je suis content d'avoir été délivré, mais il y a des habitudes de fonctionnement qui fait que nos habitudes de fonctionnement, le peuple juif, quand il s'est retrouvé dans le désert, il a fallu 40 ans pour pouvoir être purifié de ses comportements et pour pouvoir comprendre que les commandements de Dieu, il fallait qu'il les intègre et qu'il les vive. C'est ça qui le prédisposait un jour, au moment où il en avait marre de fonctionner comme il fonctionnait, désirer passer de l'autre côté en terre promise. C'est-à-dire que en Agapé 1, la première étape, c'est une libération, certes, mais une libération partielle. La deuxième, la libération totale, c'est quand elle va se faire véritablement en Christ.
Eh ben, on verra ça lundi prochain. Grand merci à vous, Daniel Desbois, de nous accompagner pendant ce carré. On donne à la fin de cette émission, et on le fera au long des prochaines aussi, donc la référence de cet ouvrage qui a été écrit donc par le père François Buet, qui est aumônier donc de ces retraites, de ces agapés du Puy-en-Velay, de la libération à la vie dans l'esprit, un chemin d'intégration progressive, de la libération à la vie dans l'esprit, François Buet, aux éditions Nouvelle Cité. Merci à vous et rendez-vous lundi prochain.
À bientôt.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.